Mbaye au cancer oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en fonction des deux statuts de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Depuis l'annonce par le chef de l'État de la formation du gouvernement de cohésion nationale et l'expédition des affaires courantes de l'actuel gouvernement, certains observateurs estiment que l'administration publique souffre de paralysie suite aux mesures conservatoires du Premier ministre. Nous en parlons avec vous, avec comme question, comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiokapi.net et appelez-nous au 081-890-6315. Pour votre intervention en direct, Alain Goy est à la mise en onde, Pierrot Lamegi est à la réalisation de ce programme et il est assisté par Elvira Panzou. J.R. Mungembo Cordon est présent sur cette émission sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous ouvrons ce débat avec vous, Omar. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Omar.
Bonjour, J.R. Nguembo. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Merci beaucoup, J.R., de commenter cette actualité avec la radio Okapi.
Voilà, dommage, nous avons des petits soucis avec la ligne de Omar qui nous appelait de Kinshasa. On va prendre plutôt Totokani, qui est dans la même ville, province qu'Omar. Totokani, bonjour.
Bonjour, bonjour Gérard, merci, bonjour.
Vous avez la parole. Comment commentez-vous cette actualité?
Oui, vous savez, la mesure conservatoire du Premier ministre, il avait prise, c'était dans un cadre strictement préventif, hein, dans la mesure où le chef de l'État avait annoncé la mise en place imminente d'un gouvernement de cohésion nationale à l'issue des travaux de concertation nationale. Eh bien, cette démarche administrative, aujourd'hui, est pour ma part dépassée par les jours du temps, car le gouvernement tant attendu n'arrive pas. Et puis, en considérant la dernière sortie du président de la République à l'occasion du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, il me semble que le chef veut avoir tout son temps avant de procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement. Alors, ainsi, les ministres n'ont plus assez de marge de manœuvre pour conduire à bien les affaires de l'État, car tous les pouvoirs sont actuellement concentrés entre les mains du seul Premier ministre. C'est-à-dire qu'il ne reste au ministre que juste de petits pouvoirs protocolaires. Pourquoi je souhaite qu'il revienne sur sa décision, donc que le Premier ministre revienne sur sa décision, en attendant que le ciel politique s'éclaircisse davantage. Et à ce moment-là, si vraiment on est sûr qu'on peut nommer le gouvernement dans une semaine, dans deux semaines, c'est à ce moment-là qu'il peut reprendre la décision et puis demander au ministre de sursoir à toutes les autres décisions. Je crois que c'est ça ma participation. Je vous remercie.
Voilà, Totokani, donc vous pensez que il faut qu'on accorde le bénéfice de l'urgence au fonctionnement normal des institutions parce que par rapport à l'usure des temps, vous pensez que cette mesure conservatoire ne tient plus la route.
Tout à fait.
Voilà, donc et vous pensez aussi que, en vous référant au discours du chef de l'État, à l'occasion des festivités marquant le 54e anniversaire de notre indépendance, que ce n'est plus éminent, c'est le gouvernement des cohésions nationales, parce qu'il a dit lui-même que c'est d'une manière méthodique qu'il va s'employer, et pas dans la précipitation.
La précipitation, parce que je me dis que le chef de l'État semble avoir une position de prudence. C'est-à-dire que pour lui, selon ma lecture, ce qu'il veut plus privilégier, c'est la stabilité du pays, plutôt que des nominations de manière assez, peut-être superficielle, d'un gouvernement qui ne pourrait probablement rien apporter au pays ou quoi. Ça, c'est un âge que moi, c'est ma lecture. Et alors là, je me dis que la stabilité, c'est ce que veut le chef de l'État. Par notre gouvernement, il faut qu'il soit sûr que c'est un gouvernement qui va travailler dans la continuité de la stabilité par rapport à celui qui est aujourd'hui là en place. Alors, c'est pourquoi je me dis, en attendant, les ministres ne peuvent pas rester bras croisés en tournant les pouces. Il faudrait plutôt qu'ils travaillent comme il se doit. Sinon, ce serait un ralentissement qui pourrait avoir aussi un impact quelque peu négatif sur la société dans son ensemble. D'où la nécessité pour le Premier ministre de revenir à sa décision et d'autoriser au ministre du Travail comme il se doit. Sinon, c'est un ralentissement qui pourrait nous préjudicier tous. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Toto Kali. Nous avons également des internautes qui nous ont envoyé leurs messages sur nos différents réseaux sociaux. Albert Kadima dit ceci: ils n'ont aucun souci du peuple, car quand les gouvernements fonctionnent, c'est la population qui se retrouve, mais quand il s'agit des affaires courantes, c'est pour les intérêts des politiciens. Patrice Tanga depuis Lubumbashi: d'une part, ces observateurs ont raison, car les ministres n'arrivent pas à travailler comme il faut, c'est-à-dire ils sont en train dans un rythme réticent pour ne pas feindre aux exigences édictées par le Premier ministre. Il y a un blocage dans plusieurs secteurs. Pourquoi le Premier ministre avait pris dans la précipitation cette décision qui, à ces jours, rend l'économie nationale malade? Ils n'ont pas raison parce qu'ils ne cherchent d'accuser injustement le gouvernement dans son ensemble. Il y a Robert Cassis de Licassi, dit ceci: pourquoi devons-nous nous agiter si déjà le présent gouvernement a donné quelques fruits positifs? Autant les laisser aller jusqu'au bout en procédant au remaniement s'il le faut, que de chercher les oiseaux rares pour produire des prodiges et des miracles. Et d'ailleurs, parce qu'on est, Robert vient de nos régions de Alicassi. Robert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Radio Cassis.
Vous avez posté vos commentaires sur notre page Facebook et vous avez demandé que les gens ne puissent pas procéder dans la précipitation. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans votre message?
De toutes les manières, puisque ici, il faut faire la part des choses. Comprenons bien que il y a le gouvernement qui devrait sortir. Normalement, quand on forme un gouvernement de transition, c'est-à-dire c'est pour aboutir à quelque chose. Donc on s'attend à quelque chose. Or ici, il n'y a pas de transition. Si nous devons penser à ce gouvernement qui ne vient toujours pas, un gouvernement de cohésion nationale, c'est pour quelle raison? Pour aller où? Puisque normalement, un gouvernement comme celui-là, c'est un gouvernement qui doit jouer la transition entre une situation et une nouvelle situation qui doit se présenter. C'est ainsi que nous avons réagi pour dire, ça ne sert à rien, parce que jusqu'à ce moment ici, nous avons compris que le gouvernement qui est en place aujourd'hui, c'est un gouvernement qui a déjà produit des fruits. Nous ne voyons pas pourquoi il faut chercher à gauche et à droite. Aussi, il est vrai que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui travaille. S'il doit faire une cohésion, c'est cohésion avec qui? Puisqu'il y a dans l'opposition, c'est une opposition qui est opposition séparée, une opposition qui n'est pas stable. On va faire la cohésion avec quoi? Avec qui? En faveur de qui et pourquoi?
Oui, Robert, vous avez évoqué les cas de la France à la démission du dernier gouvernement. Le lendemain, le nouveau était formé. Et vous êtes allé plus loin en évoquant aussi le Sénégal. Et vous parlez en RDC. Pourquoi faut-il faire des jeûnes et prières pour qu'il y ait la mise au pied d'un gouvernement de cohésion nationale?
Oui, évidemment, si j'ai parlé du Sénat, est-ce que vraiment pour faire un gouvernement, il faut gêner, il faut faire des prières, il faut peut-être prendre des féticheurs pour devoir penser à devoir sortir un gouvernement? Nous avons vu l'exemple de la France. Le gouvernement a démissionné et le lendemain, il y a un nouveau gouvernement qui a pris les choses en main. Nous avons vu au Sénégal, le gouvernement est parti avec la première ministre qui était là et le lendemain, on a eu un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'on attend pour cette situation en République démocratique du Congo? Nous avons compris que ce sont les mêmes gouvernements qui sont en train de tirer des choses en longueur et ils savent pourquoi ils les font.
Voilà, merci Robert. Mais vous avez suivi Toto Kani qui vous a précédé, qui parlait de l'usure des temps. Selon lui, hein, par rapport à l'usure des temps, cette démarche de mesures conservatoires ne tient plus la route, à en croire d'ailleurs les discours du chef de l'État à l'occasion des festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, qui parlait en fait que ce n'est plus imminent parce que tout doit passer méthodiquement et non dans la précipitation. Alors Toto Kani a proposé que qu'on redevienne au fonctionnement normal des institutions. Est-ce que vous partagez cet avis?
De toutes les manières, je partage son avis et je mets aussi des réserves. Puisque une chose est curieuse. Chaque fois qu'on dit une chose ici en République démocratique du Congo, surtout par le gouvernement, il y a toujours le contraire qui apparaît. Comment pouvons-nous comprendre que le Premier ministre prend des mesures conservatoires, il interdit ceci, il interdit cela, mais l'endemain, ce sont ces mesures-là qui sont bafouées, qui sont préventives, et on fait le contraire de ce qu'il a pris comme disposition. Il est sorti des ministres, il s'engage à faire des contraires qu'on sort. Tout ce qu'on a pris comme mesures conservatoires, par le Premier ministre, dans sa lettre du mois d'octobre, rien ne va, donc tout est bafoué. Donc, Ça sert à rien de prendre des mesures comme ça, autant de faire ce gouvernement continuer
son bon chemin,
ou alors faire les remaniements comme ils veulent dans leur histoire là-bas, et nous laisser, nous, les petits peuples, mourir tel que nous devons mourir.
Merci beaucoup, Robert, d'avoir appelé Delicacy et surtout d'avoir déposé, avant posté vos commentaires, avant de réagir en direct. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, hier, je tiens à m'excuser car le réseau a voulu porter atteinte à la délicatesse de mon intervention. Donc, je disais hier que je voudrais articuler mon intervention en trois points. D'abord, sur l'opportunité du gouvernement de causer nationale actuelle. Et deux, sur la mesure conservatoire qui a été prise. Et enfin, j'atterrisserai avec quelques recommandations pour qu'on puisse bien aboutir. La première question que je me pose est de savoir, est-ce qu'il est opportun qu'il y ait un gouvernement de causer nationale? Moi, je pense que hier, nul ne peut ignorer que notre pays est un pays post-conflit et que il y a des tensions. Le gouvernement contribuerait, n'est-ce pas, à apaiser et à renforcer l'unité. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais ça a un sens. Car on ne peut pas préparer l'avenir si on n'interroge pas son passé. Notre passé nous démontre que nous sommes divisés et qu'il faut qu'on se mette ensemble. Et je pense que ce gouvernement d'inclusion pourrait contribuer tant soit peu à cette unité et l'opposition de la majorité. Deuxièmement, il a fallu qu'on prenne une mesure conservatoire. Juridiquement, ça peut se faire. Lorsqu'un gouvernement est démissionnaire, les ministres n'ont que des affaires courantes. Mais la théorie voudrait que cette situation ne puisse pas durer, car il en va de la survie de l'État. Aujourd'hui, hier, cette discussion aux mesures conservatoires a entraîné des conséquences fâcheuses. Prenez seulement les cas des nouvelles unités qui ont été nommées avant cette mesure. Aujourd'hui, ils ne sont pas toujours payés. Ça fait presque une année. Et quelle est leur survie, leur famille? Deuxièmement, il faut des nouvelles sociétés qui doivent être créées. Les ministres ne peuvent plus prendre les actes juridiques. Qui va ordonner à la société de créer? Troisièmement, tous les actes juridiques par le ministre ne peuvent plus être prendre. Et imaginez les dégâts que ça peut causer. Je parlais avec un promoteur d'une école qui doit étendre les sections de son école. Mais aucun arrêté ne peut être pris. Et imaginez les dégâts des enfants de ces quartiers qui doivent faire la section qu'il a voulu intégrer, qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que, au nom d'un gouvernement, la survie de l'État n'est pas possible. Moi, je pense que l'opportunité se présente, mais la mesure a trop duré. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cela puisse déchuter? Première recommandation. Moi, je pense que le gouvernement doit être pris. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une recommandation de concertation. On reconnaît un grand homme politique lorsqu'il fait respecter ce qu'il a promis. Le président est un homme de grande vertu. Il ne peut pas revenir sur ce qu'il avait promis. Mais il faudra que cette cohésion puisse être prise dans les temps. Aussi, il faudra qu'on mette des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne suffit pas seulement parce qu'il y a unité qu'on prenne tout parce qu'il est de l'opposition, de la majorité ou de la société civile. Il faut qu'on prenne des gens sérieux car il en va de la survie de la nation.
Oui, mais Omar, déjà, nous observons au niveau de l'opposition, il y a une tension latente. Nous suivons l'actualité, il y a, en tout cas, les uns et les autres, c'est jette des pierres dans tous les sens.
Ce qui démontre, c'est qu'on a toujours dit hier qu'il y a une crise d'hommes politiques en RDC. Voilà pourquoi c'est même l'une des causes qui fait qu'on puisse freiner. On ne sait pas qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition. Si l'opposition était unie, elle avait ses candidats, on n'aurait pas tous ces problèmes. Nous profiterons de cette émission pour conseiller aux membres de l'opposition de pouvoir bien se mettre ensemble, car on ne peut pas faire l'opposition pour des intérêts privés, c'est pour l'intérêt de la nation. Si c'est pour l'intérêt de la nation, autant mieux se mettre ensemble et décider qui va faire partie de ce gouvernement de cohésion. Et il y a une mesure urgente, ma deuxième recommandation, il faut qu'on suspende, s'il vous plaît, cette mesure conservatoire. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre. D'abord, pour qu'il y ait gouvernement, il faut que le Parlement finisse ses vacances, parce que c'est le Parlement qui doit investir. Jusqu'à quand allons-nous continuer avec cette suspension qui met en péril tout un État? Il faut que, même si on va prendre le gouvernement de cohésion nationale, qu'on arrive quand même à suspendre cette mesure pour permettre au ministre d'agir, car une suspension longue n'entraîne que des conséquences très fâcheuses. Voilà ma partition d'aujourd'hui, hier. Je vous remercie de cette parole que vous m'avez accordée.
Merci Omar d'avoir joué votre partition dans cet échange citoyen. Parole aux auditeurs et l'émission 100% interactive. Nous retenons une chose par rapport à votre intervention, qu'il y a demeure, il y a péril en demeure, dans la mesure où on maintiendrait, en tout cas, jusqu'à la rentrée, la nouvelle rentrée parlementaire, cette mesure conservatoire qui, en fait, ne règle pas les choses au niveau de l'économie nationale. Merci beaucoup, Omar. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Au Capitan, mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit,
et le samedi, Megamix de 19h à minuit. Au Café Dance New Wave, tous les mercredis, de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue. Nous recevons, donc nous accueillons notre invité, Bopenda Bonkoumou, voilà, qui est un ancien administratif, un secrétaire général honoraire et parmi les doyens de secrétaires généraux. Alors, monsieur Bopenda, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde parle de mesures conservatoires et d'aucuns vont encore plus loin pour dire que cela a causé une paralysie du côté de l'administration. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans la pratique, comment ça se passe concrètement pour les cas d'espèce?
Bon, dans les cas d'espèce, je regrette beaucoup que les autres puissent ne pas parler de paralysie. D'abord, si vous lisez la lettre du Premier ministre, le Premier ministre n'a pas interdit à l'État de fonctionner. Il y a la notion de permanence et de la continuité de l'État. Et dans ce cas ici, ce cas précis, tous les ministres qui ont lu la lettre du Premier ministre, lorsqu'il s'agissait alors d'une situation d'urgence ou d'une situation nécessaire pour débloquer le fonctionnement de l'État, il pouvait très bien s'adresser au Premier ministre et le Premier ministre pouvait alors donner le quitus pour qu'il puisse agir. Je prends un exemple. J'ai appris que 9 ministres ont signé un arrêté supprimant certains taxes. Ce qui prouve très bien que les autres aussi pouvaient très bien le faire et faire fonctionner l'État dans leur secteur. Ça, c'est un. De deux, il y a une jurisprudence. Très souvent, nous, les Congolais, nous n'avons pas la notion de nous référer à l'histoire. Il existe une jurisprudence. Lorsque l'autorité avait pris la décision de annoncer la suspension du gouvernement, on pouvait très bien se référer à cette jurisprudence-là. C'est-à-dire quoi? Demander aux secrétaires généraux, un collège de secrétaires généraux, d'expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination du gouvernement. Donc, il y avait là une jurisprudence que même la Belgique a imité, la France peut-être pouvait aussi le faire, et les autres pays. Voilà les éléments que je...
Oui, alors parce que vous parlez de la jurisprudence, vous faites allusion à la décision prise par le feu président Mobutu à la Deuxième République, lorsque le gouvernement traînait, il a donné le pouvoir au secrétaire général d'expédier les affaires courantes.
Justement,
vous voulez parler de ça?
Justement. C'est de cette jurisprudence-là que vous voulez invoquer.
Alors maintenant que c'est vrai, vous venez d'évoquer là un cas qui, en fait, pour votre évidence, vous rejoint ce que venaient de dire Toto Kani et Robert Delicassi, qui parlaient déjà de mesures conservatoires qui sont bafouées par certains les autorités ou responsables de certains ministères. Vous avez évoqué là le cas de la suspension de plusieurs taxes arrêtées signées par 9 ministres. Donc, on peut dire d'autres ministres qui sont aussi dans le gouvernement pouvaient faire autant. Alors, comme pour dire, le gouvernement peut fonctionner normalement, sans problème, malgré ces mesures du Premier ministre.
Oui, le gouvernement, quand on vous dit d'expédier les affaires courantes, c'est-à-dire de ne pas prendre les engagements graves au profit de tel ou tel, il faut toujours prendre les dispositions de se référer à celui qui a été l'auteur de la suspension. Il va vous autoriser. Donc, on ne peut pas invoquer le blocage par-ci, par-là, non. Le problème n'est pas là. Le problème est que tous ceux qui se trouvent dans la nécessité doivent se référer à l'auteur de la lettre de suspension, pour qu'ils donnent l'écoutus.
Et maintenant que le gouvernement de cohésion nationale n'est plus imminent, parce que tout doit être fait méthodiquement et non dans la précipitation, vous pensez comme les auditeurs qu'on redevienne, qu'on rentre au fonctionnement normal du gouvernement? Qu'on puisse lever cette mesure conservatoire?
Non. Le fonctionnement normal du gouvernement, suppose que chaque ministre décide dans son secteur sans se tout en faisant le rapport au Conseil des ministres. Mais ici, puisqu'il y a un certain blocage, on peut, je dirais, on peut prendre les décisions essentielles en se référant au Premier ministre. Il va autoriser, comme il va autoriser les deux chambres qui ont signé la carité.
Voilà, restez en ligne, monsieur Bopenda Bokumu Lodiangela. Nous allons prendre une autre série des auditeurs, Séraphin Bujumbura et Paul qui est à Kinshasa. Séraphin, bonjour.
Bonjour, je suis à toute l'activité de la radio, je suis très content de vous écouter.
Vous avez la parole, Séraphin.
Merci une fois de plus de l'opportunité que l'on permet encore à passer à cette émission. Je viens de suivre un autre candidat, un invité que je constate, c'est lui-même et ses contributions. Ses contributions, pourquoi? Parce qu'il venait de dire qu'il y a une loi similaire que le ministre a demandé au premier ministre a demandé au ministre de réduire leurs activités au cas de gérer les affaires courantes. Parce que lorsqu'on réduit de gérer les affaires courantes, c'est-à-dire on réduit vos attributions. Donc, il y a des responsabilités qu'il ne faut plus engager le gouvernement.
Surtout des juridiques.
Allô?
Surtout, ne pas poser des actes juridiques.
C'est tout ça. Parce que lorsqu'on dit que je rends les affaires courantes, donc on doit, cela signifie qu'on réduit votre activité, vos attributions. Mais l'invité, lui, dans le mur, on a déposé ou on a fait cette loi circulaire, mais ça n'empêche pas le ministre de travailler. Bien sûr, ça n'empêche pas le ministre de travailler, mais néanmoins, ça réduit leurs attributions. Deuxième chose que je veux dire, moi je pense que le Premier ministre, parce que nous avons tout entendu ce mouvement de congé national qui n'est pas du tout important pour ce moment, moi je pense que le ministre devait revenir à sa décision et consulter le chef de l'État pour qu'on puisse lever ce plaisir. Parce qu'aujourd'hui on constate une paradigme au niveau, que ce soit des entreprises publiques, soit des entreprises privées. Parce que vous constaterez avec nous, au niveau de la République démocratique du Congo, souvent des crises, il y a une crise nationale au niveau du pays. Mais pourquoi? C'est parce que tout le monde attend ce gouvernement, donc l'argent n'est plus en circulation et tout le monde attend le niveau du gouvernement qui viendra pour maintenant poser des actes qui sont en fait en conformité avec les lois, parce que le ministre actuel ne posera plus des actes qui engagent la République. Ça, c'est la première chose. Il y a même des choses. Et si vous voulez aussi parler à propos du gouvernement qu'on attend, ouais, pourquoi on attend tout ce temps? C'est parce que l'opportunité, la nécessité et l'intérêt même qui se pose. Est-ce que c'est important absolument qu'on puisse faire ce devoir du congé national? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce sera l'intérêt du chef de l'État, lui qui estime qu'il faut faire ce gouvernement du congé national? Quel sera son intérêt? Là, on se pose un problème.
Voilà, merci beaucoup Séraphin d'avoir appelé de Bujumbura. Vous rejoignez donc les points de vue de vos prédécesseurs qui estiment qu'en ce moment, il faudrait que cette mesure soit levée pour permettre à ce que les ministres puissent fonctionner en toute liberté. Alors Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Paul.
D'abord, concernant les thématiques d'aujourd'hui, je dirais ceci. Nous, ici, à Kinshasa, bon, le problème, j'aime beaucoup de polémiques par-ci, par-là. Mais, ce que je vais dire, surtout au gouvernement, bon, cela donne beaucoup de mauvaises choses pour la vie, surtout des petits peuples. Nous, ici, à Kinshasa, surtout, dans nos domaines de bruyère, les grands patrons qui tiennent de l'argent, qui provient du gouvernement. Bon, comme le gouvernement est en train de expédier les affaires courantes, bon, vraiment, concernant l'argent, ces grands patrons-là.
Oui, voilà, Paul, si je comprends bien, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes dans les circuits du commerce, et vous avez constaté, vous, en tout cas observé comme tous les autres, que l'argent ne circule pas, tout cela est lié à cette mesure conservatoire, et comme d'autres prédécesseurs, vous pensez et vous estimez qu'il est temps qu'on puisse lever cette mesure pour permettre à ce que les choses redeviennent normales et dans un fonctionnement normal. Merci beaucoup, Paul, d'avoir appelé des Kinshasa. La Guilloire, vous êtes à Calémie. Bonjour.
Bonjour, cher Goulembo. Bonjour à tous les amis de la parole provinciale.
Vous avez la parole, la Guilloire. Votre point de vue.
D'accord. Oui, je pense que la situation du gouvernement qui est déclaré démissionnaire a des conséquences néfastes de la part de nous qui sommes les gouvernés. Nous connaissons tous bien, si quelqu'un est déclaré démissionnaire, il peut faire n'importe quoi. Il est partant. Et il peut bouffer, voler, détourner, même le bien public, parce que vous l'avez déjà annoncé le départ. Il n'est pas souciant, et c'est pourquoi vous éviter tout ce mal. Il serait bien, et il serait même souhaitable de maintenir l'équipe qui est en place. Et si.
Oui, notre invité a dit tout à l'heure, c'est vrai, parce que si nous scrutons un peu l'histoire, il y a une certaine époque où on avait une crise pareille, le président Mobutu avait pris la décision de déléguer le pouvoir aux secrétaires généraux qui ont assumé les affaires courantes. Alors lui dit, pourquoi ne pas utiliser cette jurisprudence dans les cas d'espèce pour permettre à ce que les choses fonctionnent sans problème.
Mais hier, à l'époque de Mobutu, est-ce qu'il y avait des guerres? Et quand on voit bien la manière dont Mobutu faisait ses affaires, il faut voir, est-ce qu'à l'époque il y avait l'opposition? Il n'y avait pas l'opposition. C'était l'époque d'un seul parti. Et pourquoi, M. Gers? Je pense que pour éviter tous ces mal, il serait mieux même de maintenir cette équipe avec elle est déclarée non éligible. Parce que quelqu'un peut bouffer, parce que nous avons vu Omar qui avait la sortie du gouvernement du premier mandat, et il y avait certains membres du gouvernement qui n'avaient même pas voulu faire la remise de reprise du fait. Il a lui-même d'abord constaté son parcours était totalement mauvais. C'est pourquoi, quel est le bon de mettre ça, de déclarer ce gouvernement démissionnaire? Au moment que nous avons déjà vécu ses fruits, malgré quoi, il faudrait qu'on rétablisse. Il n'y a pas d'opposition solide dans la République démocratique du Congo. L'opposition de la République est encore minée, jusque-là, n'est pas encore grandie. C'est pourquoi, moi, à mon avis, j'ai songé que nous devons seulement maintenir l'équipe de Matata. Quelqu'un peut terminer son mandat. Je vous remercie, monsieur.
Voilà, merci beaucoup, Laguillois, d'avoir appelé des Calémi 081. 890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte du recettes des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte. Le total de la Quindy sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. Parole aux auditeurs avec vous, Bopenda, Bonkoumou, Lomiangrela. Vous êtes notre invité, vous êtes le secrétaire général honoraire et le doyen des secrétaires généraux. Monsieur Bopenda, vous êtes en ligne avec nous.
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous venez de suivre là cette série des auditeurs. Alors, comment vous réagissez par rapport aux propos des uns et des autres?
Bon, d'abord, il y a un auditeur qui a parlé que le secrétaire général ont expédié les affaires courantes, il n'y avait pas de guerre. Je crois qu'il a oublié qu'en cette période-là, il y avait des pillages partout dans la République. Donc, c'est une situation aussi de trouble.
Exceptionnelle.
Oui, oui. Alors, le secrétaire général avait expédié les affaires courantes. Et de deux, je voudrais dire ceci. Peut-être que les gens ne comprennent pas que l'État doit continuer et ne doit pas
s'arrêter.
Être arrêté. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Non. Il y a la notion de la permanence et de la continuité de l'État. Moi, j'ai souligné, j'ai dit ceci. Aucun ministre ou aucune autorité ne peut dire que l'État congolais est bloqué aujourd'hui parce que le ministre ne travaille pas. Chaque ministre, s'il se trouve devant une situation qui implique, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'État, peut s'adresser directement au Premier ministre, et le ministre, le Premier ministre n'attend pas 48 heures pour lui autoriser.
Oui, pour obtenir une dérogation.
Oui, mais cette dérogation, on l'obtient à moins de 2 heures. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que le ministre, c'est un ministre qui ne veut pas travailler, celui-là, alors, n'a pas la confiance.
Oui, peut-être le problème, c'est au niveau maintenant de cette dérogation qui ne s'obtient pas facilement.
Je voudrais connaître le nom d'un seul ministre qui n'a pas obtenu
une dérogation.
Du Premier ministre. Puisque je vois le ministre voyager, je vois le ministre continuer, n'est-ce pas, à animer les ateliers, à clôturer et aussi à prononcer les mots d'ouverture des ateliers. Je vois le ministre qui continue, n'est-ce pas, à recevoir
les délégations officielles.
Je voudrais connaître le nom de ce ministre-là qui dit qu'il ne travaille plus parce qu'on lui a interdit de travailler.
Voilà. Est-ce que, par rapport à cette situation, vous pensez que, comme d'autres observateurs le pensent aussi, que ça monte à suffisance, qu'il n'y a pas une collaboration entre le gouvernement et l'administration qui est censée au fait être le pilier de ces gouvernements. Sinon, les choses allaient se faire automatiquement, allaient se passer sans problème.
Effectivement. Actuellement, on a clochardisé l'administration publique. L'administration publique aujourd'hui, vous trouvez par exemple des attachés de bureaux qui sont nommés secrétaires généraux. Alors, celui-là n'a pas d'expérience. Vous le nommez secrétaire général. Vous bloquez l'administration parce que les autres, les directeurs, ne peuvent même pas, les chefs de bureau, les chefs de ne peuvent pas vraiment l'obéir. Donc, je voudrais dire ceci. Ce sont des situations que nous récoltons pour avoir bousillé l'administration publique. Normalement, l'administration publique aurait dû, j'ai bien dit, en amont, on aurait dû prendre alors cette disposition de se référer à la jurisprudence créée par Mobutu. En amont. Et actuellement, on ne peut plus revenir à ça parce que c'est déjà dépassé. Le gouvernement, en fait, ça fait déjà 9 mois. Comment on peut nommer encore le secrétaire général pour expédier les affaires courantes? Maintenant, ce n'est plus possible.
Mmh.
Et deuxièmement, il y a un élément qu'il faut connaître hier. Si au niveau de l'autorité, il se trouve dans les difficultés peut-être de former ce gouvernement parce qu'il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui veut, qui applique le principe autre soit
humain,
c'est-à-dire l'opposition qui presse pour venir au gouvernement, et une autre tendance qui dit je ne quitte pas parce que je n'ai pas de mérité. Donc, ce sont les membres du gouvernement. Il convient maintenant de voir que toutes les 2 tendances privilégient l'intérêt général, le fonctionnement normal de l'État. À ce moment-là, le président de la République, qui a toute la liberté de décider, peut alors de prendre une décision de manière à débloquer la situation. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau.
Voilà, nous vous gardons encore en ligne parce que c'est un débat, il nous reste encore quelques minutes encore. Alors, Bopenda Bokumulo Nyangela, vous êtes secrétaire général honoraire et doyen des secrétaires généraux. Nous allons repasser à nouveau de l'autre côté du standard pour accueillir Freddy qui est à Lubumbashi et Maître Adrien à Kananga. Freddy, vous êtes avec nous, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs, merci de l'opportunité. Je salue d'abord l'invité qui est en ligne. Et je commencerai quant à ce sujet à déplorer le fait qu'il y a eu précipitation de la part du président de la République par le fait qu'il a prononcé, n'est-ce pas, ce truc de gouvernement d'union nationale. Si on savait qu'on n'allait pas être prêt, on n'allait pas faire ça, parce qu'en politique, quand un président de la République...
Oui, mais il faut noter, Freddy, que l'annonce n'est pas forcément une précipitation. On peut annoncer et attendre à réunir tous les éléments possibles pour permettre à ce qu'on puisse sortir les gouvernements. Nous avons vu en Belgique, les deux parties ne se sont pas mis d'accord. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est l'administration qui doit continuer à travailler, Freddy.
Oui, c'est de cela que je parle.
Oui, allez-y droit au but avec la question sur l'administration.
Comme si cela ne suffisait pas, le Premier ministre a écrit, n'est-ce pas, suspendant les activités des ministres, ne devrait que gérer les affaires courantes. Aujourd'hui, ça fait une année. Pour un peu contredire l'invité, parce que là, il veut savoir les noms. Il peut nous dire, il peut justifier pourquoi on avait révoqué le ministre de l'EPSP. Ce n'est pas du fait de l'EPSP, s'il vous plaît. Ce n'est pas du fait de n'avoir pas respecté ces instructions du Premier ministre. Il n'y a pas que ça, j'ai un cas. C'était en 2013, le 22 juin.
Mais je crois que l'objet de la suspension de ces ministres, c'était bien marqué insubordination.
Voilà, insubordination. Vous savez ce que ça tâche.
Bon, peut-être que vous avez une interprétation sur la subordination.
Ok.
Comment vous avez interprété cette insubordination?
Non, mais ce que je vous dis, l'insubordination, il n'a pas respecté cette instruction. Ça, c'est mon point de vue.
Qui vous dit que c'était exactement les instructions relatives aux mesures conservatoires? Ça pouvait être autre chose.
Ok, je me réserve.
Maintenant,
à part ça, le 22 juin 2013, le gouvernement a recruté, a fait faire un concours dont j'étais parti. Le concours des inspecteurs des parquets. Nous avons fait ça, le gouvernement devrait recruter 400 inspecteurs des parquets, donc 400 IPJ. Nous avons réussi. Et dès lors, depuis le 22 juin 2013 jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas encore appelés. Nous passons au parquet, je parle du parquet de Lubumbashi ici, on y passe, on nous dit non, le ministre doit vous nommer un, c'est pour que vous puissiez traiter fermement. En août, je pense, ou en octobre, que la mesure est sortie où le ministre ne devait plus prendre le temps d'arrêter. Comme l'invité en fait, c'est ça un exemple frappant. Voilà
mais ce n'est pas exclu, c'est dit. Ce n'est pas exclu. Alors, on est tous d'accord qu'il y a certains ministres, comme l'ont dit vos prédécesseurs, qui ont bafoué ces mesures conservatoires, mais il y a d'autre part aussi l'intervention de notre invité qui dit qu'on n'a pas demandé aux ministres de ne pas travailler parce qu'ils ont l'opportunité, ils ont la possibilité d'aller solliciter une dérogation auprès du Premier ministre. Donc, je crois que le ministre de la Justice pourrait aussi faire autant.
Ok, ce que vous dites est vrai. Maintenant, vous dites que vous pensez qu'il doit aussi faire autant. Mais la lettre, la subordination dont on demande, le respect envers le Premier ministre qui est le centralisateur, tout ça, est-ce qu'on doit fonctionner, vraiment doit fonctionner comme ça? Je pense, à mon avis, que le Premier ministre devrait seulement, à haute voix, annuler son acte, c'est tout. Annuler son acte et nous permettre de continuer. Au lieu de vivre à des tâtonnements, il y a des ministres-là qui se positionnent bien par rapport à leur parti politique, elles vont à un certain moment être orgueillées, mais il y a d'autres qui ne sont pas bien positionnés et qui, quand ils essaient de faire ça, d'aller poser des actes qui ne sont pas autorisés par cet acte du Premier ministre, ça peut leur causer des problèmes. Prenez l'état dans lequel on a. Il y avait de l'urgence depuis 2013 de recruter les 400 inspecteurs des parquets et ils ont déjà été recrutés, mais la nomination.
Il
faut parce qu'il y a un arrêté qui est en train de bloquer les ministres.
Voilà. Alors, c'est un cas parmi tant d'autres. Je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres cas aussi similaires. Je crois que notre invité reviendra sur ça pour dire vraiment la machine est bloquée. Il faudrait quand même qu'on puisse accorder le bénéfice de l'urgence à la levée de cette mesure pour permettre à ce que les choses redeviennent normales selon le propos des uns et des autres. Merci beaucoup, Freddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Rungimbo. Bonjour à tous les inconditionnels de la parole aux auditeurs.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Merci, J.R., pour la parole que vous m'accordez. Je pense que je vais axer mon intervention sur deux points, donc sur deux plans, sur le plan politique et sur le plan juridique. C'est très important, J.R., parce qu'il faut commencer sur le plan politique. Nous sommes au mois d'octobre, juste après les concertations, et le président de la République qui prend une certaine décision. Or, lorsque le président prend la décision, je pense que, conformément à l'article 78 de la Constitution du 18 février 2006, le Premier ministre s'est conformé à cette disposition, disant que son gouvernement était démissionnaire.
Nous savons tous que lorsque un gouvernement est démissionnaire, il expédie tout simplement les affaires courantes. Donc, au jour d'aujourd'hui, dire que le président de la République s'était précipité, je pense que ce n'est pas du tout correct de ma part, parce que si le président tardait avec les recommandations, ça pouvait créer des tollés dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, hier, sur le plan juridique, l'acte du Premier ministre, je vous ai dit que c'est un acte qui se conforme avec l'article 78 de la Constitution précitée. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a certains observateurs, même certains de mes compatriotes, qui estiment qu'il est de bonne loi que le Premier ministre revienne sur sa décision, mais là, ce sera paradoxal, parce que j'ai, à moins que si on pouvait invoquer la théorie de l'acte contraire, mais lorsque j'analyse la théorie de l'acte contraire par rapport à la situation sous examen, je me dis que ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire le Premier ministre ne peut pas revenir sur sa décision pour autoriser le ministre de déposer donc n'importe quel acte, même le ministre. Les savent que lorsque un gouvernement est réputé démissionnaire, le pouvoir est restreint. Donc ils ne sont plus en voilà. Donc ils n'ont plus les mains libres.
Oui, mettez Adrien. Oui, mettez Adrien.
N'importe quel acte.
Mettez Adrien.
Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai entendu l'invité faire allusion à une jurisprudence à l'époque de Mobutu. Bon, je pense qu'on ne pouvait pas faire quand même allusion à cette honteuse jurisprudence, parce que chacun le sait que même le président Mobutu, en prenant une telle décision, il avait foulé au pied la Constitution. Donc, de 67, révisé à maintes reprises, il avait foulé au pied parce que lui-même était le roi, personne ne pouvait le dire. Or, la Constitution, le chef de l'État, c'est le garant de la Constitution.
Oui, Maître Adrien, c'est vrai que, est-ce qu'ils vont nous... vous êtes en ligne, Maître Adrien?
Affouler la Constitution. Donc,
mais, voilà, on s'entend pas. Maître Adrien, on sera obligé de vous couper, mais parce que là, on s'entend pas. Est-ce qu'on peut s'écouter un peu, Maître Adrien?
Nous devons l'accepter comme ça.
Voilà, je suis désolé, hein, Adrien. Bon, voilà, parce que c'est une jurisprudence. Adrien, vous me suivez? Maître Adrien, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, cher.
Alors, donc, je disais, à des situations exceptionnelles, il y a des solutions toujours exceptionnelles, qu'il s'agisse de des années 90, 11, 13, lorsqu'il y a eu le pillage où le président Mobutu a pris la décision de déléguer le pouvoir au secrétaire généraux, ou encore le cas d'espèce après concertation nationale pour le gouvernement des coalitions nationales avec un gouvernement démissionnaire, avec des mesures conservatoires. Pour l'inviter, il estime que il était question maintenant qu'on a applique cette jurisprudence, ça pourrait quand même aider tant soit peu à oxygéner notre administration.
C'est vrai que moi je ne suis pas d'accord avec l'invité, parce que nous sommes devant deux cas totalement différents. Le cas de 90 et le cas sous-examen ne se marient pas pour qu'on puisse faire allusion à ça. Et puis je vous ai dit d'entrée de jeu que on ne peut faire allusion à une jurisprudence ou à une doctrine selon que la loi est muette. Mais dans le cas sous-examen, la loi a donné comment est-ce qu'il faut fonctionner. Et c'est ça le fonctionnement actuel. Donc les ministres doivent se sentir lésés, parce que si on les laissait, nous risquerons vraiment de voler une. Donc, il faut comprendre qu'ils sont des missionnaires que vous avez invoqué l'État belge. Hein, la Belgique a évolué pendant presque une année avec un gouvernement démissionnaire, avec un premier ministre qui assurait l'expédition des affaires courantes. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire allusion, franchement, on ne peut pas faire allusion à cette jurisprudence. Mais la solution est qu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État peut vraiment se rattraper comment? C'est en mettant sur pied un gouvernement qui viendra couper court à toute spéculation.